bienvenue à la soirée radiophonique d'Amnet Radio. Nous commençons par l'interview d'acteurs de l'art d'aujourd'hui dans notre émission d'Amnet Art Contemporain. En milieu de soirée, vous retrouvez nos confidences et lectures érotiques dans l'émission Eros d'Amnet. Pour conclure cette soirée, découvrez toutes sortes de sons et laissez-vous aller sur plus d'une heure de musique intégrale. Lors de l'émission d'Amnet, création sonore et musicale, dès à présent, retrouvez les infos ou les musiques et les travaux des artistes en vous connectant sur http://damienbourdeau.freef.fr. Bourdeau s'écrit D-A-U-D. Damned Art Contemporain, un ou une artiste, une curatrice ou un curateur, une asso, un ou une critique de l'art contemporain qui vont nous parler de leur réalisation, de leur parcours, de leurs conditions de travail et de leur vie. Ce soir, nous accueillons
Michel Delacroix, artiste. Je travaille dans différents champs, aussi bien avec une production, on va dire, conventionnelle, de type installation, dispositif, et aussi sur des projets plus expérimentaux, comme un lieu d'art expérimental aussi. Et depuis plusieurs années, donc, avec un travail qui croise les pratiques et qui fait appel aussi à d'autres procédures.
Build a kid in a field of poplars. Just one touch of moonlight. Thank you. shadow is carefully distinguished from all of the shadows. Delicate as perception is, no one will get his gun or obliterate their shadows.
Il y a bientôt 4 ans maintenant, je travaillais sur d'autres projets avec un webmaster et qui, au détour d'une conversation, me soumet l'idée de créer un site consacré à des vidéos d'artistes. J'étais moyennement intéressé par le projet puisque ce type de site, on en trouve beaucoup sur Internet. Je pressentais qu'il fallait trouver une autre écriture, une autre approche par rapport à un travail montré en ligne. Donc j'ai réfléchi, et comme je m'intéresse beaucoup au contexte de démonstration des œuvres, au marché de l'art, aux galeries, je me suis dit, faut créer une galerie. Donc en continuant dans la réflexion, donc j'ai décidé de créer une galerie en prenant comme référence des galeries prestigieuses que l'on voit avec leur archétype, à savoir les murs blancs, le sol gris. Et donc j'ai dessiné ce lieu sans limite, en le construisant avec toute la panoplie nécessaire, une grande salle d'exposition, d'autres plus petites salles, une salle vidéo. Une fois ce lieu dessiné, je l'ai construit à échelle réduite et j'ai testé à l'intérieur une exposition. Ce test était assez étonnant et ça fonctionnait très bien. Donc j'ai décidé de l'expérimenter en publiant, donc en exposant certains artistes. J'ai contacté un ami artiste qui est Patrice Ferraz, qui m'avait dit, si tu as un projet, je suis partant pour travailler avec toi. Donc je lui ai soumis l'idée, à savoir donc concevoir une exposition pour ce lieu. J'ai pris le lieu dans le coffre de la voiture, puisqu'il se transporte dans une voiture. Et je suis allé rendre visite à Patrice qui lui habite près d'Auxerre. Donc il était déjà assez étonné de me voir arriver. Il dit « Oh, je vois arriver un galeriste avec la galerie dans le coffre de la voiture ». Donc c'était une mise en bouche assez sympathique, on va dire. Et lui donc avait travaillé en amont sur la préparation de cette exposition. On a monté cette exposition et puis on a pris des images, on a construit tout l'ensemble. Dans la foulée, on a décidé de faire un petit carton d'invitation. On a sélectionner des images qui nous paraissaient les plus pertinentes et on a mis en ligne la première exposition de chez Robert. Cette première exposition donc a circulé uniquement avec nos propres carnets d'adresses respectifs et a rencontré tout de suite un très bon accueil. Il y a eu pas mal de retours, des gens intéressés, un peu surpris, qui demandaient essentiellement où se trouvait le lieu, donc il fallait un peu expliquer quel était le projet, que le lieu n'était visible que sur Internet. Et donc, à la suite de cette première exposition, je me suis dit, donc ce lieu existe, mais n'est visible que sur Internet, il n'a pas d'appartenance géographique précise, donc on ne s'interdit rien, il faut lui donner une dimension plus internationale. Donc j'ai contacté Hélène Pinor, qui est une artiste australienne que j'avais rencontrée lors d'une exposition à Kuala Lumpur. Je lui ai soumis l'idée. Elle, à l'époque, son mari travaillait à Londres, elle avait la possibilité de venir à Paris. On s'est rencontrés à Paris et on a ensemble construit le principe de l'exposition. Ensuite, elle est retournée en Australie. On a continué nos échanges par mail. Et cette exposition s'est montée donc à distance. Elle m'a envoyé les plans de son installation que j'ai construit et j'ai publié ensuite cette deuxième exposition, enrichie aussi du carnet d'adresses d'Hélène Pinor. Donc, le principe était posé, c'est-à-dire que chaque exposition donc se nourrit du carnet d'adresses de l'artiste qui vient d'exposer, ce qui permet d'augmenter l'audience et de continuer le projet. Donc là, c'est parti d'une manière assez, on va dire, assez instinctive, assez bricolo. J'étais vraiment dans l'expérimentation, je n'avais pas fait une analyse détaillée du concept, de savoir où ça pouvait m'emmener, je n'avais pas de plan déterminé. À l'origine, j'étais plus vraiment dans un domaine d'expérimentation et puis de test pour voir comment on pouvait tester les principes d'exposition et les lieux. Et progressivement, donc à la suite de ces deux premières expositions, j'ai reçu quelques dossiers d'artistes et des artistes m'ont écrit en me demandant des renseignements, en me demandant comment fonctionnait la structure. Donc j'ai répondu, j'ai reçu une proposition de Julien Cadoret, qui est un artiste de Besançon, qui m'a envoyé son dossier, qui m'a demandé s'il pouvait faire un projet pour chez Robert. Donc son dossier, c'est un travail néo-géo qui avait un petit décalage. Je me dis, j'ai pressenti qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec son univers. Donc je lui ai répondu favorablement, on s'est rencontrés, et puis il a construit la troisième exposition pour chez Robert, qui s'appelait Pirouette Cacahuète. Et une fois l'exposition construite, je lui ai expliqué le principe, donc avec cette idée de carnet d'adresses des artistes. Et Julien, donc, lui, travaille aussi sur d'autres projets, notamment avec une association. Et il m'a dit oui, pas de problème, je peux te passer le mailing de mon assos. Et il m'a passé un mailing absolument hallucinant de 10 000 personnes. Ce qui était assez étrange, assez étonnant. Et donc on a lancé son exposition avec ce mailing, ce qui a permis donc d'élargir énormément l'audience du lieu. Et à la suite de cette troisième exposition, j'ai eu énormément de retours. Et notamment d'un artiste qui s'appelle Vincent Ganivet, dont je connaissais déjà le travail. J'avais déjà un dossier sur lui dans mon ordi. Et c'est un artiste que j'appréciais beaucoup. Donc je lui ai répondu que je serais enchanté s'il voulait bien penser à une exposition pour chez Robert. Donc on a convenu de se rencontrer. Je l'ai vu à la galerie, à un lieu qui s'appelle la galerie à Noisy-le-Sec. Il exposait là-bas. La rencontre était assez étonnante. Il pense avoir un jeune webmaster derrière son écran. Et quand il m'a vu arriver, il a fait des yeux tout ronds. J'ai dit, ouais. Il me dit, c'est toi, chez Robert. Je lui dis, oui, tu t'attendais à voir un jeune webmaster. Il me dit, oui, non, non. Il me dit, je m'attendais à voir un jeune webmaster derrière son écran. Puis je dis, ouais, tu vois arriver un vieux crouton. Et là, on est parti d'un éclat de rire. Donc, ça, c'est les aléas des rencontres avec le réseau. Ensuite, il a construit une exposition, mode propre, qui parlait de la résonance des matériaux. Il y avait du métal, de la pierre. Enfin, son exposition était assez étonnante. J'ai du mal à en parler clairement là. Mais disons que Vincent lui travaille beaucoup dans l'action. Il est très connu maintenant par ses cercles et ses arches qu'il fait en parpaing. Donc il a un travail de sculpture, de construction qui est assez étonnant, on va dire. Et pour l'exposition chez Robert, il a dû se questionner beaucoup plus d'une manière théorique. Il pouvait pas faire le travail qu'il réalisait habituellement. Et donc son travail, c'est à la fois un travail physique avec bien sûr du béton, puisque c'est son matériau de prédilection, mais aussi une grosse réflexion, une grosse approche conceptuelle. On a eu des échanges assez réguliers par rapport au contenu de son exposition. Et quelques temps plus tard, il m'a dit qu'il avait vraiment apprécié cette expérience. Ça l'avait obligé à se questionner beaucoup plus en avant sur la construction de l'exposition. Voilà, ensuite les expositions se poursuivent jusqu'à présent, donc. Il faudrait que je les liste maintenant. Ça devient un travail d'archivage qui se fait. Pour chaque exposition, il y a aussi un critique qui est convoqué, enfin qui est amené à écrire un texte qui introduit l'exposition. Et progressivement, donc, il y a toute une matière qui est en train de se collecter à travers ce dispositif. Et le projet que j'avais démarré au début, sans trop savoir où aller, ou d'une manière un peu plus légère, est devenu maintenant assez solide, je pense. C'est un projet qui prend une forme qui est assez stimulante.
Everybody said that you better watch out. Man, she's gonna turn you in. And me, you know that I thought I lucked out. And now look at the trouble that I'm in. No, you better watch out for Charlie's girl. Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. It happened on New Year's Eve. Everybody had to leave. They had a warrant in their hand. did a bust the whole band. I said if I ever see Sharon again, I'm gonna punch her face in. You know you better work out for Charlie's girl. Hey now man, watch out for Charlie's girl. You know she'll turn you in. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. She'll turn you in, you better, huh? Watch out, you better. Watch out, you better. You better watch out, you better. You better watch out for.
Donc à ce jour, il y a une vingtaine d'expositions qui ont déjà été montées avec aussi bien des artistes émergents, comme on dit, que des artistes plus reconnus, comme par exemple Jean Dupuis. Jean Dupuis, c'est un très bon souvenir. Le montage de l'exposition Jean Dupuis chez Robert a été une très belle aventure. C'est une rencontre que j'ai faite au moment de la FIAC, donc sur le stand d'une galerie. Et j'étais avec Emmanuel Régent, un autre artiste qui a exposé chez Robert, devant des travaux de Jean Dupuis exposés. Et je dis à la personne que j'apprécie beaucoup ce travail, elle me dit « bon, ben justement, il va passer sur la galerie, sur le stand, dans un petit moment. » Bien, et je dis, j'étais donc avec Emmanuel, et puis je lui dis, oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, à part j'aime beaucoup ce que vous faites. Et Emmanuel me répond, mais tu as qu'à lui parler de chez Robert. Donc Jean Dupuis arrive, c'est un grand bonhomme, il a 85 ans, c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment très riche, qui a vécu longtemps à New York, qui était très proche du mouvement Fluxus. C'est un ami de Ben, c'est un ancien compagnon de Filiou, enfin c'est presque une légende, on va dire. Donc je me présente et puis je lui parle de chez Robert. Et tout de suite je vois son œil qui s'allume, puis il me dit « oui, c'est un petit peu comme la valise de Marcel là. » Donc la valise de Marcel Duchamp, qui a fait son mini-musée portatif, donc dans une valise. Je lui dis « oui, oui, c'est tout à fait ça ». Il me dit « oh oui, ça m'intéresse bien, moi je pourrais exposer mon chat chez Robert ». Enfin, il est parti tout de suite dans des idées les plus farfelues. Donc là-dessus, on échange nos adresses, et puis il me dit de le recontacter pour venir le voir pour construire cette exposition. Ce que j'ai fait donc quelques semaines plus tard, j'ai le téléphone et immédiatement au téléphone, il a embrayé en reprenant la conversation qu'on avait laissée à la FIAC et puis en disant oui, oui, d'accord, je vois, je pourrais faire ça. Et donc il a, pareil, continué, il a ébauché quelques pistes. Et à la suite de cette discussion, je suis descendu le voir dans son atelier à Nice. Et on a passé deux jours magnifiques où on était comme des gamins en train de s'amuser autour de la boîte, autour de chez Robert. On a construit cette exposition et c'est un souvenir magnifique. C'est quelqu'un qui a une fraîcheur, un esprit très vif. Et il a dessiné ses anagrammes sur les murs de chez Robert. C'était vraiment une très belle exposition avec quelqu'un de magnifique et de généreux. Voilà, tout ça pour dire la variété des gens que j'ai pu présenter dans ce lieu jusqu'à présent. D'autres expériences sont arrivées aussi là-dessus. J'ai reçu une sollicitation de la part de l'école d'art de Cergy qui avait l'idée, donc c'est Mathilde Villeneuve qui pilote des projets à l'école d'art. Et donc avec il y a un workshop qui était organisé qui s'appelait Kiss Me Deadly avec trois enseignants de l'école d'art. L'idée était de faire travailler avec les étudiants très rapidement, à la fois dans un lieu conventionnel, on va dire, en l'occurrence c'était l'espace main-d'œuvre qui est dans la Petite Couronne à Paris. Et ils avaient comme projet de faire travailler aussi les étudiants chez Robert, donc leur faire une proposition à la fois chez Robert, pour chez Robert et à main-d'œuvre. Quand j'ai reçu cette proposition, j'étais un petit peu. J'étais un peu en questionnement, parce que déjà faire une exposition collective dans un lieu tout petit comme ça, c'était pas gagné. Et puis, je ne voulais pas non plus que chez Robert devienne l'objet d'un exercice. Je me suis rendu compte très vite en discutant avec l'équipe de Sergi que ce n'était pas du tout le propos, qu'on était dans une configuration de montage d'exposition, plus que d'un. Ce n'était pas du tout un exercice scolaire, on va dire. Et donc, on a construit ce. J'ai fait un workshop donc à Sergi et ça a été aussi très riche et très. Oui, il était donc riche et aussi étonnant toute cette rencontre avec les étudiants qui, eux, étaient d'une manière assez surprenante parfois par rapport à la demande. Donc il y a eu une exposition chez Robert qui s'est ouverte le même jour que l'exposition en main-d'œuvre. Et avec une expérimentation qui n'avait jamais été faite, à savoir une performance qui avait lieu en direct aussi, dans le lieu d'exposition et retranscrite aussi sur et retransmise aussi sur Internet. Voilà pour une autre expérience chez Robert. Donc il y en a d'autres. Ce serait peut-être très long de les énumérer toutes, c'est une sorte de litanie. Mais ce qu'il. Si je raconte toutes les expositions les unes derrière les autres, on aura risque d'être un peu monotone. Mais ce qui ne l'est pas, c'est chaque rencontre, chaque exposition est différente. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que même si les expositions sont visibles uniquement sur Internet, c'est un lieu qui fonctionne essentiellement sur la rencontre. Ça, je pense qu'on l'a peut-être entendu dans ce que je viens de raconter. C'est-à-dire que il y a une expérimentation physique à la fois du montage de l'exposition et un dialogue, un échange avec les artistes qui exposent. Et c'est là où se situe vraiment toute la richesse de cette expérience. À la fois, on s'affranchit complètement des contingences matérielles, de toute la lourdeur qu'on pourrait rencontrer dans le cadre de montage d'exposition. Quand je parle de lourdeur, c'est des lourdeurs matérielles, c'est aussi des lourdeurs financières, puisque très souvent on est confronté à des projets qu'on ne peut pas réaliser parce qu'on n'a souvent pas les budgets pour les faire. Et là, ce dispositif permet de s'affranchir de toutes ces contraintes, et comme je le définis quelquefois, chez Robert est un dispositif léger de montage de projets ambitieux. Donc c'est vrai que ça concilie à la fois l'ambition du propos et la légèreté de la structure, la légèreté de l'organisation, on va dire.
Thank you.
Ah, Cynthia, c'est un projet que je mène avec Patrice Ferras, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Patrice a participé à la première de l'exposition chez Robert, et c'est un artiste avec lequel je discute assez fréquemment. Chez Robert questionne le lieu d'exposition, questionne le réseau de l'art contemporain, donc il y a tout un tas de questionnements pour répéter qui se font autour de ça. Et dans nos discussions, on se posait aussi la question des artistes, du marché de l'art actuel, avec comme constat que le marché de l'art devient beaucoup plus réactif, rapide. Les artistes sont souvent des produits jetables. Enfin, c'est un petit peu exagéré, mais il y a des modes, il y a la mode aussi des jeunes artistes, et chaque structure ou galerie ou autre recherche le jeune artiste. Et nous, dans notre propre parcours, ça nous interpelle, puisque on n'est plus à proprement parler de jeunes artistes. Là, j'en parle très sérieusement, mais on échangeait d'une manière beaucoup plus légère autour de. Dans un restaurant, autour d'une bonne bouteille et d'un plat. Et au fur et à mesure de la discussion, on a eu l'idée, et on s'est dit, mais après tout, pourquoi ne pas créer un artiste et de jouer avec tous ces mécanismes. Bon, c'est pas nouveau, il y a des fictions qui ont déjà été construites dans ce sens. Mais on s'est dit qu'on pourrait imaginer une artiste, donc se projeter dans un univers qui n'est pas le nôtre, et de construire à la fois sa biographie et de construire aussi sa production. Pour la nommer, donc je ne me souviens absolument pas comment le nom est arrivé. Mais dans la discussion, il y avait peut-être un programme télé qui traînait sur une table, je ne sais plus. Enfin bref, on a testé différents prénoms et on s'est arrêté sur Cynthia. Et on s'est dit, bon voilà, cet artiste va s'appeler Cynthia. Puis Patrice me demande, on va l'appeler Cynthia comment? Je lui dis, Cynthia, point à la ligne. Et donc, on s'est arrêté là-dessus, on dit, ouais, point à la ligne, c'est pas mal. Et en partant de Cynthia, Cynthia point la ligne, on a réfléchi à des œuvres qui pourraient être en écho avec ce personnage. Et donc on a travaillé sur différentes pièces, aussi bien des pièces sonores que des images, que des productions matérielles, qu'une installation. Donc pour la première exposition de Cynthia, il y avait par exemple des tableaux tatins. Donc des tableaux tatins, ce sont des formes géométriques réalisées avec justement de la pâte à tarte et qui étaient retournées, accrochées au mur. Il y avait aussi un dispositif sonore, l'arroseur, qui une sorte de private joke avec une histoire qu'on s'était racontée. Des photographies inuites, hein, c'est-à-dire des images créées à travers un objectif qui reprend les lunettes des Inuits. Je ne sais pas si vous connaissez ces lunettes qui ont juste une petite fente pour se protéger du soleil. Donc il y avait toute une série d'images réalisées avec des filtres de même type. Et puis une installation avec des poireaux, parce qu'elle peignait avec des poireaux, Cynthia. Enfin, tout ça un peu en vrac, mais on a créé une exposition très construite, très sérieuse. Et lors d'ateliers ouverts dans Lyon, on a montré ce travail, mis en espace dans un lieu qui s'appelle Le Goût du Nylon, qui est aussi une édition, quelqu'un qui fait de l'édition en sérigraphie. Et lors du vernissage, les gens étaient un peu surpris, nous demandaient qui était Cynthia, où elle était, et on était vraiment on est assez en porte-à-faux pour répondre, puisque on était obligé de mentir. Enfin, il y avait un côté qui nous mettait mal à l'aise, le fait que ça soit un peu une imposture, nous mettait un peu en porte-à-faux. On n'était pas très très à l'aise avec le procédé. Et donc, quelques temps plus tard, quand on fait une sorte de débriefing de cette expérience, on se dit, mais cette expérience était quand même assez stimulante, elle était assez intéressante. On a envie de la continuer, mais peut-être pas sous cette forme-là, avec laquelle on n'est pas tout à fait à l'aise. Et on s'est dit, mais cette Cynthia, il faut qu'elle continue de vivre, mais il faut qu'on l'incarne, il faut qu'elle existe. Et comment la faire exister? Et progressivement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait rencontrer des Cynthia. Et pour rencontrer des Cynthia, on s'est dit que la meilleure méthode pour en rencontrer était de leur écrire des lettres, hein, d'abord une correspondance épistolaire, non pas avec Internet, mais en leur écrivant des courriers. Donc sur des annuaires, on a trouvé des personnes nommées Cynthia, dans un premier temps dans des départements proches des nôtres, pour ne pas avoir trop de déplacements à faire. Et on a envoyé une quarantaine de lettres à des Cynthia dans trois départements. Et chose assez surprenante, il y a 8 Cynthia qui nous ont répondu, qui étaient assez surprises, qui demandaient plus de renseignements. Il faut dire qu'à l'appui de notre lettre, on avait indiqué un site internet, il y avait déjà la première exposition de Cynthia qui crédibilisait un peu le projet. Et puis on écrivait sous nos deux noms, ce qui levait un peu l'ambiguïté, parce qu'il ne fallait pas que le projet soit vu comme une méthode de drague déguisée ou un truc un peu pervers. C'est vrai que ce travail était un petit peu difficile à amener, mais je pense qu'on a trouvé une accroche assez crédible, puisque c'est Cynthia nous ayant répondu, on en a ensuite rencontré. Et lors des rencontres avec les Cynthia, elle nous demandait, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Et nous de répondre, on n'en sait rien, on ne savait pas. On a construit le projet au fur et à mesure des rencontres, et ces rencontres étaient totalement informelles, donc on a commencé à discuter de musique, la playlist des Cynthia, de... Le, playlist de Cynthia. Il y avait aussi, j'ai sur mon iPhone, on les faisait dessiner un petit croquis. Les goûts par rapport à l'habitat, la maison de Cynthia, quelle est votre maison idéale? Petit à petit aussi, sont arrivés d'autres questionnements sur les couleurs, sur les goûts, et sur les goûts culinaires aussi. Et donc, on a collecté toute une série de témoignages, de données, on va dire, sur les Cynthia, avec, dans le souci principal aussi, de ne pas rentrer dans l'intimité des personnes, c'est-à-dire on reste dans un domaine assez général, on ne fait pas d'intrusion trop délicate par rapport à la vie personnelle de ces Cynthia. Ensuite, on a poursuivi ce projet avec d'autres envois. On a fait toute une série d'envois. On a rencontré aussi d'autres Cynthia avec lesquels on échange aussi par mail. Et puis, on a toute une sorte de galaxie de Cynthia qui s'est créée et émerge de toutes ces données, on va dire, des pistes de production, des pistes beaucoup plus formelles, qui sont des pistes que l'on trouve vraiment très intéressantes parce qu'elles elles élargissent le champ des possibles. C'est-à-dire que nos intentions sont plus de produire des choses qui dépassent le milieu uniquement de l'art contemporain et qui nous emmènent dans des voies que l'on connaît peu ou que l'on connaît mal, ou des organisations qui sont un petit peu différentes. On a même comme idée de faire une formation d'entrepreneur, par exemple, pour créer une entreprise Cynthia. Les récits sur les maisons idéales nous ont emmenés sur l'écriture d'un cahier des charges. On a des récits à plusieurs voix, des récits donc audio, de maisons idéales qui sont ensuite remontées avec différentes personnes qui interviennent et qui donnent ce qui va être le cahier des charges d'un projet d'architecture. Et l'idée, c'est de lancer un projet d'architecture, la maison de Cynthia, avec dans cet appel d'offres, donc, un cahier des charges audio qui serait... ce sera uniquement un cahier des charges audio que les postulants au concours donc, devraient écouter et puis rebondir sur ce cahier des charges pour dessiner une maison. Et ensuite, l'idée de faire un concours est de choisir une maison qui serait ensuite commercialisée ou réalisée ou intégrée dans le catalogue d'un constructeur ou... on ne sait pas encore, mais l'idée, c'est d'aboutir sur un projet d'architecture. C'est un travail en cours, donc c'est difficile de voir précisément où ça va nous emmener. Mais cette idée de croiser le champ de l'art contemporain avec d'autres domaines beaucoup plus communs, on va dire, nous intéresse bien. Même chose pour, j'ai parlé tout à l'heure des goûts culinaires, donc il y a une Cynthia qui est totalement passionnée de cuisine et qui crée ses propres recettes. Donc on est en train de construire les recettes de Cynthia qui va déboucher sur une édition donc, de recettes de cuisine. Et l'idée c'est que cette édition soit à la fois un travail qui s'inscrit dans un parcours ou dans un projet artistique, mais aussi dans le domaine plus basique des livres de recettes, c'est-à-dire d'avoir une frontière qui va un petit peu être mouvante par rapport à tout ça. Et il y a une autre piste sur la musique, mais sur laquelle on est en train de travailler, qui nous permettrait d'utiliser la playlist des Cynthia, mais d'une manière un petit peu plus décalée, avec des interprètes qui restent à trouver, mais qui pourraient peut-être donner matière à la création de ou de ou de clips, ou de bandes-annonces, ou carrément d'albums liés à cette playlist de Cynthia. J'ai parlé tout à l'heure aussi des dessins, qui pourraient être édités sous forme de t-shirts. Enfin, on est dans un travail qui se construit au fur et à mesure. Et puis, l'intérêt de ce travail, c'est qu'il nous emmène dans des directions et dans des réponses qu'on n'aurait pas imaginées au début de ce travail. Donc l'idée de se surprendre soi-même est vraiment ce qui est intéressant. Ces idées de rencontre avec des personnes qui ne sont pas liées au monde qu'on côtoie habituellement, c'est au monde de l'art contemporain. Ces idées de rencontre donc sont vraiment passionnantes.
Some lights.